Chapitre 6. Le corps de Diana Philomel était aussi parfait que pouvait le rendre la chirurgie plastique et la science des ARNistes. Je m'attardai au lit pour l'admirer plusieurs minutes après m'être réveillé. Elle était tournée de l'autre côté, et les courbes classiques de ses reins, de ses hanches et de son dos offraient à mes yeux une géométrie plus belle et plus puissante que tout ce qu'avait pu découvrir Euclide. Les deux fossettes visibles au bas du dos, juste avant l'évasement à vous couper le souffle du merveilleux postérieur d'une blancheur de lait, la tendre intersection des angles, le dos des cuisses lisses et fermes, cela représentait un spectacle plus sensuel et plus parfait que tout ce que l'anatomie mâle, sous n'importe lequel de ses aspects, pouvait espérer avoir à offrir. Lady Diana était endormie, ou du moins le semblait. Nos vêtements jonchaient une large étendue de moquettes vertes. Une épaisse lumière teintée de rose et de bleu entrait à flot par une large fenêtre à travers laquelle étaient visibles des cimes d'arbres gris et or. De grandes feuilles de papier à dessin gisaient un peu partout, sur nos vêtements épars et dessous. Je me penchai du côté gauche du lit pour ramasser l'une de ces feuilles, sur laquelle était esquissée une paire de seins, des cuisses, un bras retravaillé à la hâte, un visage sans traits. Réaliser un croquis sur le vif, en état d'ivresse et sous le coup d'une tentative de séduction, n'est pas la meilleure garantie d'un travail artistique de qualité. Je me remis sur le dos en gémissant doucement et m'absorbai dans l'étude contemplative des moulures du plafond à 4 mètres au-dessus de moi. Si celle qui était couchée à mes côtés avait été Fanny, je n'aurais pas souhaité bouger d'ici pour tout l'or du monde. Mais comme ce n'était pas le cas, je me glissais hors des couvertures et récupérais mon persoc, notant au passage que c'était le petit matin sur Tossetti Central et que 14 heures s'étaient écoulées depuis l'heure de mon rendez-vous avec la présidente. Puis je m'éloignais sur la pointe des pieds en direction de la salle de bain, à la recherche d'une pilule contre la gueule de bois. Il y avait tout un choix de médicaments dans l'armoire à pharmacie de Lady Diana. Outre l'aspirine et les endorphines habituelles, je reconnus des stims, des tranques, des tubes de flashback, des pommades orgastiques, des dérivateurs sensoriels, des vaporisateurs de cannabis, des cigarettes de tabac non recombe et une centaine de drogues diverses moins faciles à identifier. Je dénichai un verre et me forçai à avaler 2 lendemains, qui firent disparaître mon mal de tête et mes nausées en quelques secondes. Lady Diana était réveillée et assise au milieu du lit, toujours nue, lorsque je retournai dans la chambre. Mon sourire se figea lorsque j'aperçus les 2 hommes dans l'encadrement de la porte qui donnait à l'est. Aucun des deux n'était son mari, bien qu'ils fussent à peu près de la même carrure, sans cou, avec des battoirs à la place des mains, et une gueule correspondant tout à fait au style d'Hermione Philomel. Il y a sans doute eu, dans le long cours de l'histoire des hommes, un ou 2 mâles capables de se trouver totalement nus et pris au dépourvu devant 2 inconnus habillés et à l'air menaçant, peut-être des rivaux amoureux, sans éprouver le besoin de se faire tout petit, de cacher leur partie génitale, de se pencher en avant et tout cela sans se sentir totalement vulnérable et grevé d'un lourd désavantage. Mais je ne suis pas de cette trempe-là. Je me courbai en avant, couvris mes parties génitales à 2 mains, et courut vers la salle de bain en bredouillant « Qu'est-ce que... qui ?» Je tournai les yeux vers Diana Philomel pour implorer son aide et vis le sourire qui y flottait. Un sourire qui correspondait à la cruauté que j'avais lue depuis le début dans ses yeux.
« Saisissez-le ! Vite !»
ordonna mon ex-amante. Je réussis à atteindre la salle de bain et j'étais sur le point d'actionner la commande manuelle de dilatation du diaphragme de la porte lorsque le premier des 2 hommes me saisit le poignet, me tira violemment en arrière vers la chambre et me poussa dans les bras de son comparse. Ils devaient être tous les 2 natifs de Lusus ou d'un autre monde à gravité élevée. Si ce n'était pas le cas, cela voulait dire qu'ils se nourrissaient exclusivement de stéroïdes et de cellules sans son. Ils jouaient au ping-pong avec moi sans faire aucun effort. De toute manière, leur stature importait peu. En dehors de ma très brève carrière de bagarreur dans les préaux, mon existence, ou le souvenir que j'en avais, ne m'offrait que très peu d'exemples où j'étais sorti vainqueur d'un affrontement de ce genre. Il suffisait d'un seul regard aux 2 types qui s'amusaient en ce moment à mes dépens pour savoir qu'ils étaient du genre de ceux que l'on trouve couramment dans les livres, mais auxquels on ne croit pas vraiment dans la réalité, et qui sont capables de vous briser un os, de vous aplatir le nez ou de vous fêler une rotule sans éprouver plus de scrupules que moi quand je jette un stylo qui a cessé d'écrire.
« Vite !»
souffla de nouveau Lady Diana. Je ratissais l'infosphère, la mémoire de la maison, le persoc implanté de Diana, les fils ténus qui reliaient les deux gorilles à l'univers de l'information. Je savais maintenant où j'étais. Le domaine de Philomèle, à 600 km de Pyre, dans la ceinture agricole du secteur terraformé de Renaissance Minor. Et quelle était l'identité exacte des deux gorilles? Débine Farus et Emmett Gorma, employés à la sécurité pour le compte du syndicat des racleurs de boue d'Evansgate. Mais je n'avais toujours pas la moindre idée de la raison pour laquelle l'un de ces sbires était assis sur moi, son genou dans le creux de mon dos, pendant que l'autre écrabouillait mon persoc sous son talon et faisait glisser des menottes à osmose sur mon poignet et le long de mon avant-bras. En entendant l'injonction de Lady Diana, je cessais toute résistance.
« Qui êtes-vous ?»«
Joseph Severn. »«
C'est votre vrai nom ?»«
Non. » Je sentais les effets du sérum de vérité et je savais que je pouvais le déjouer simplement en me retirant, en m'enfonçant dans l'infosphère ou en me réfugiant dans le technocentre. Mais j'aurais ainsi abandonné mon corps à ceux qui me questionnaient. Je préférais rester. J'avais les yeux fermés, mais je n'eus pas de mal à reconnaître la voix de Lady Philomèle qui me demanda.
« Qui êtes-vous en réalité ?»
Je soupirai. Il n'était pas facile de répondre sincèrement à cette question. « John Keats », murmurai-je enfin. Leur silence m'apprit que ce nom ne représentait rien pour eux. « Et pourquoi aurait-il représenté quelque chose ?» me demandai-je. J'avais moi-même prédit un jour que mon nom serait écrit sur l'eau. Bien qu'incapable de remuer ou d'ouvrir les yeux, je n'avais aucun mal à ratisser l'infosphère pour suivre leur vecteur d'accès. Le nom du poète n'était que l'un des 800 John Keats figurant sur les listes du fichier public. Mais ils ne songeaient pas à s'intéresser à quelqu'un qui était mort depuis 900 ans.
« Pour qui travaillez-vous ? »
me demanda alors la voix d'Hermoun Philomèle, ce qui me surprit un peu, je ne sais pas pourquoi.
« Pour personne. »
Il y eut un faible effet Doppler lorsqu'il tint un conciliabule.
« Est-il possible qu'il résiste à la drogue ?»«
Personne ne peut y résister !» fit la voix de Diana. « Elle peut causer la mort du sujet auquel on l'administre, mais il est impossible qu'il y résiste !»«
Que se passe-t-il alors ?»
demanda Hermund.
« Pourquoi Gladstone introduirait-elle quelqu'un d'insignifiant au Conseil à la veille de la guerre ?»«
Il vous entend, vous savez !»
fit la voix de l'un des gorilles.
« Quelle importance ?»
demanda Diana.
« Il ne survivra pas à l'interrogatoire, de toute manière. »
Je perçus de nouveau sa voix dirigée vers moi cette fois-ci.
« Pourquoi la présidente vous a-t-elle demandé d'assister au conseil, John ?»«
C'est pas très bien, sans doute pour avoir des nouvelles des pèlerins. »«
Quels pèlerins ?»«
Les pèlerins du Gritch. »
Quelqu'un d'autre fit du bruit.
« Chut !»
fit Diana Philomèle.
« Vous voulez dire les pèlerins du Gritch sur Hyperion, John ?»
reprit-elle en s'adressant à moi.
« Oui. »«
Il y a un pèlerinage en cours ?»«
Oui. »«
Et pour quelle raison Gladstone a-t-elle besoin de vous ?»«
Parce que je les vois en rêve. »
Il y eut une exclamation écœurée.
Hermoun murmura « Il est complètement cinglé. Même sous sérum de vérité, il ne sait pas qui il est, et certainement il nous raconte n'importe quoi. Finissons-en avec ce… »«
Tais-toi !»
fit Lady Diana.
« Gladstone n'est pas cinglée, elle. N'oublie pas qu'elle l'a fait venir spécialement. » « Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites que vous les voyez en rêve, John ?»«
Je rêve les impressions ressenties par la première personnalité qui se récupérait. »
Ma voix était pâteuse, comme si j'étais en train de parler dans mon sommeil.
« Il s'est recablé dans l'un des pèlerins quand ils ont assassiné son corps. À présent, il hante leur microsphère. J'ignore comment ses perceptions sont devenues mes rêves. Peut-être que mes actions sont ses rêves à lui. Je ne sais pas.
« Complètement dingue !»
s'écria Hermund.
« Mais non !»
fit Lady Diana d'une voix tendue, presque paralysée par le choc.
« John, êtes-vous un cybride ?»«
Oui. »«
Par Allah et Jésus !»
s'exclama-t-elle.
« Qu'est-ce que c'est que ça, un cybride ?»
fit l'un des gorilles qui avait une voix haut-perchée, presque féminine. Il y eut quelques instants de silence, puis la voix de Diana reprit.
« Crétin !» Les cybrides étaient des annexes de personnalités humaines créées par le technocentre.
Il y en avait quelques-uns qui siégeaient à l'Assemblée consultative jusqu'à la fin du siècle dernier, où ils ont été interdits.
Des androïdes, un truc comme ça ?
Demanda le deuxième gorille.
La ferme !
S'écria Hermund.
Non !
Répondit Diana.
Les hybrides étaient des êtres génétiquement parfaits, recombinés à partir d'ADN remontant à l'ancienne Terre. Il suffisait d'un fragment d'os, d'un cheveu. John ! Vous m'entendez, John ?
Oui.
John, vous êtes un hybride. Savez-vous quel était votre modèle original ?
Oui. John Keats.
Je l'entendis prendre une inspiration prolongée.
Qui était John Keats ?
Un poète.
À quelle époque a-t-il vécu ?
De 1795 à 1821.
Selon quel calendrier, John ?
Ancienne terre d'avant la mort, époque moderne, pré-égyrienne.
La voix d'Hermund s'interposa, nerveuse.
John, êtes-vous en contact avec le technocentre en ce moment ?
Oui.
Avez-vous la possibilité de communiquer avec eux malgré le sérum ?
Oui.
Bordel !
Fit le gorille à la voix de soprano.
Il faut foutre le camp d'ici !
Lança Hermund.
Encore une minute,
murmura Diana.
Il faut absolument que nous sachions si...
On ne peut pas l'emmener avec nous ?
Demanda le gorille à la voix plus grave.
Crétin !
Lui dit Hermund.
Tant qu'il est vivant et en contact avec l'infosphère... Merde ! Ça signifie qu'il est dans le technocentre. Son esprit est là-bas. Il peut communiquer quand il veut avec Gladstone, avec le vice-président, avec la force, n'importe qui.
Tais-toi un peu !
Lança Lady Diana.
« Nous l'éliminerons dès que j'en aurai fini avec lui. Encore quelques questions, John. »«
Oui ?»«
Pourquoi Gladstone a-t-elle besoin de savoir ce qui arrive aux pèlerins Grichtek ? Y a-t-il un rapport avec la guerre contre les extros ?»«
Je ne sais pas très bien. »«
Merde !»
chuchota Hermund.
« Foutons le camp !
Tais-toi ! John, d'où venez-vous au juste ?»«
J'ai vécu sur Espérance durant les 10 derniers mois. »
Et avant cela ?
Avant cela, c'était la Terre.
Quelle Terre ?
Demanda Hermund.
La nouvelle Terre ? La Terre numéro 2 ? La cité de la Terre ? Laquelle ?
La Terre.
Répétai-je avant d'ajouter, le souvenir me revenant soudain,
celle que vous appelez l'ancienne Terre.
L'ancienne Terre ?
S'étonna l'un des gorilles.
Bordel ! Je me tire, moi !
Je perçus le bruit de friture d'une arme laser. Puis une odeur qui rappelait celle du bacon frit en plus douceâtre, le tout accompagné d'un choc sourd. Diana Philomel poursuivit.
« John, vous voulez parler de votre modèle original de l'ancienne Terre ?»«
Non. »«
C'est bien vous, vous en tant que hybride, qui avez vécu sur l'ancienne Terre ?»«
Oui, je me suis retrouvé vivant là-bas, dans la même chambre donnant sur la Piazza d'Hispania où je m'étais éteint. » Severn n'était pas là, mais le docteur Clark et un certain nombre d'autres personnes étaient présents sur les...
« Il est vraiment dingue !»
fit Hermund.
« L'ancienne Terre a été détruite il y a plus de 4 siècles. À moins que les hybrides ne soient capables de vivre plus de 400 ans, je ne vois pas comment. Tais-toi !»
coupa Lady Diana.
« Laisse-moi finir !» « John, pour quelle raison le technocentre vous a-t-il fait revenir ?»«
Je ne le sais pas au juste. »
Cela a-t-il quelque chose à voir avec la guerre interne entre les IA ?
C'est possible, répondis-je. C'est même probable.
Elle posait des questions intéressantes.
Par quelle faction avez-vous été créé ? Les stables, les volages ou les ultimistes ?
Je l'ignore.
J'entendis un soupir d'exaspération.
John ! Avez-vous mis quelqu'un au courant de ce qui vous arrive et de l'endroit où vous êtes ?
Non. Répondis-je.
Qu'elle eût attendu si longtemps pour me poser cette question en disait long sur l'intelligence rien moins qu'impressionnante de cette femme. Hermund lâcha lui aussi un soupir.
« Parfait, » dit-il. « Tirons-nous d'ici avant que... »«
John ?»
demanda Lady Diana.
« Savez-vous pourquoi Gladstone a fabriqué cette guerre avec les extros ?»«
Non, » répondis-je. « Ou plutôt j'entrevois de nombreuses raisons. » La plus probable est qu'elle cherche à s'assurer d'un moyen de pression dans ses relations avec le technocentre.
Comment ça ?
Certains éléments de la mémoire centrale du technocentre ont très peur d'Hyperion,
expliquai-je. Cette planète représente une variable inconnue dans une galaxie où toutes les variables ont pu être quantifiées.
Qui a peur exactement, John ? Les ultimistes, les stables ou les volages ? Quelle faction a peur d'Hyperion ?
Toutes les trois. Merde ! Souffla Hermund. Écoutez-moi bien, John. Est-ce que les tombeaux du temps et le Gridge ont un rapport avec tout ça ?
Oui, un très grand rapport.
Quelle sorte de rapport ?
Demanda Diana. Je l'ignore. Tout le monde l'ignore. Hermund ou quelqu'un d'autre me frappa brutalement, méchamment, sur la poitrine.
Vous voulez dire que cette putain d'assemblée consultative du technocentre n'a pas été capable de prédire l'issue de cette guerre ni la tournure probable des événements ?
Grogna Hermund.
Vous voudriez me faire croire que le Sénat et Gladstone s'engagent dans un conflit de cette importance sans aucune estimation de probabilité ?
Non, répliquai-je. La prédiction existe depuis des siècles. Diana Philomel émit un bruit qui ressemblait à celui que peut faire un enfant devant une montagne de bonbons.
« Quelle prédiction a été faite, John ? Dites-nous tout ce que vous savez !»
J'avais la bouche sèche. Le sérum de vérité avait tari toute ma salive. « La guerre a été prédite, expliquai-je, ainsi que l'identité des pèlerins Grichtech et la trahison du consul de l'hégémonie qui a activé le dispositif qui doit ouvrir, qui a déjà ouvert, les tombeaux du temps. La malédiction du Gritch a été prédite. L'issue de la guerre et les effets de la malédiction...
Quelle est cette issue, John ?
Chuchota la femme avec qui j'avais fait l'amour seulement quelques heures auparavant.
C'est la fin de l'hégémonie, répondis-je. La destruction du Retz. La mort du genre humain.
Je voulus m'humecter les lèvres du bout de la langue, mais elle était sèche.
Par Allah et Jésus,
murmura Diana.
Et il n'y a aucune chance pour que la prédiction se trompe ?
Non, répondis-je. Ou plutôt uniquement en ce qui concerne l'influence d'Hyperion sur le résultat final. Toutes les autres variables ont été prises en compte.
Tuez-le !
S'écria Hermund Philomel.
Tuez cette créature ! Que nous puissions foutre le camp d'ici et alerter Arbrit et les autres !
D'accord,
fit Lady Diana. Puis, une seconde plus tard.
Non, pas avec le laser, imbécile ! Nous lui injecterons une dose d'alcool mortel, comme prévu. Là, relevez-moi ce collier à osmose que je puisse fixer le goutte à goutte.
Je sentis une pression au bras droit. Une seconde plus tard, j'entendis des explosions, des chocs, un cri. Une odeur de fumée et d'air ionisé parvint à mes narines. Une femme hurla.
« Retirez-lui ses attaches !»
fit la voix de Leigh Hunt. Je le visualisais debout près de l'entrée, vêtu du même complet gris classique, entouré de commandos de la sécurité en armure de combat et polymère caméléon activé. Un commando qui faisait deux fois la hauteur de Leigh acquiesça, mit son clap à l'épaule et se précipita pour exécuter l'ordre. Sur l'un des canaux tactiques, celui que je regardais déjà depuis un bon moment, je vis l'image de mon propre corps, nu, les bras écartés en travers du lit, immobilisé par les attaches à osmose, la cage thoracique barrée d'une ecchymose saillante. Diana Philomel, son mari et l'un des deux gorilles gisaient, inconscients mais vivants, au milieu des débris de plâtre, de bois et de verre qui jonchaient le sol de la chambre. L'autre gorille était en travers de l'entrée, et tout le haut de son corps avait la texture et la coloration d'un steak trop grillé.
« Vous allez bien, H. Severn ?»
me demanda Leigh Hunt, tout en me soulevant la tête pour fixer un masque à oxygène aussi fin qu'une membrane contre mon nez et ma bouche.
« Ouais, » répondis-je. « Ça va. »
Je remontais à la surface de mes propres sens, tel un plongeur qui revient trop vite des profondeurs. Ma tête pulsait douloureusement. Mes côtes me faisaient horriblement mal. Mes yeux ne fonctionnaient pas encore parfaitement, mais je vis, par l'intermédiaire de mon canal tactique, le presque imperceptible plissement de lèvres qui tenait lieu de sourire à Leigh Hunt.
« Nous allons vous aider à vous rhabiller, » me dit-il. « On vous donnera une tasse de café à bord du glisseur. Nous retournons directement à la maison du gouvernement, H. Severn. Vous êtes en retard pour votre rendez-vous avec la présidente. »